L'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. C'est maintenant à vous de prendre la parole, appel sur l'actualité. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, temps universel, avec juste après le journal notre débat. Ce matin, sur la pollution de l'air en ville, selon un rapport de l'OMS, elle touche surtout les grandes villes des pays en voie de développement. Les transports vieillissants et l'utilisation de combustibles très polluants sont les principales causes. Alors dites-nous ce que vous constatez chez vous au 33 9 693 693 70 ou bien sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On en parle donc dans une demi-heure. Avant cela, c'est l'heure de vos questions sur l'actualité. On va parler des prochaines législatives en Espagne, de la réforme d'Europol, mais d'abord de l'attribution des JO de 2020 à la ville de Tokyo. On accueille tout de suite pour en parler Eric qui nous appelle de Yokohama au Japon. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Soyez le bienvenu Eric, on écoute votre question.
Bon voilà, en fait, j'ai suivi d'après les journaux Guardian que l'attribution des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo était entachée d'un certain nombre de malversations. Alors à ce sujet, j'ai trois questions. J'aimerais savoir de quelles malversations parle-t-on et j'aimerais également savoir pourquoi la justice française s'intéresse à ce dossier spécifiquement. Et est-ce que enfin le Japon s'expose-t-il à des sanctions de la part du Comité olympique ?
Merci Eric pour ces questions. C'est Vincent Chaudel, économiste du sport au cabinet Kurt Salmon, président du think tank Sport et Citoyenneté, qui va vous répondre. Il est au téléphone avec nous. Bonjour Vincent Chaudel.
Bonjour.
Alors c'est une nouvelle affaire effectivement qui pourrait bien encore un peu ternir l'image des JO. Donc le journal britannique The Guardian a en effet révélé jeudi dernier l'existence de versements de pots de vin présumés évidemment. C'est la première question de notre auditeur de Yokohama. Eric, de quelle malversation parle-t-on dans cette affaire ?
Bon, on parle d'un versement d'1,8 million d'euros envers dont le bénéficiaire serait le fils de la Mindiac qui était lui-même patron de l'athlétisme mondial de l'I2AF pardon. Mmh. Et donc comme toutes les attributions de Jeux Olympiques, on a des fédérations, des votants et des fédérations internationales qui ont la capacité d'influencer des votes. On va au-delà de l'influence quand on a des mouvements d'argent. C'est le problème du système du sport en général qui est pointé là du doigt. Aujourd'hui, on a avec le nouveau président du CIO, Thomas Barr, une volonté réelle de transformer les institutions et de transformer leur mode de gouvernance, mais il y a un phénomène d'inertie. L'attribution de Tokyo a été attribuée il y a quelques années en arrière et donc ce n'était pas sous sa mandature.
Alors si on comprend bien, donc ce 1,8 million d'euros aurait servi finalement pour acheter des voix pour que Tokyo puisse être élue ville donc d'accueil des JO de 2020.
Probablement, il n'est pas question là ce matin à votre micro de juger, de mener.
En tout cas, les soupçons se portent là-dessus, hein, sur
un. Les soupçons se portent exactement là-dessus, et mais que les choses soient bien claires, à partir du moment où pour accueillir une compétition comme les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde ou des championnats d'Europe, bref, des événements qui ont à la fois un impact très important économiquement pour les fédérations qui les organisent, mais aussi pour le pays hôte, et que par conséquent vous avez la possibilité de connaître tous les votants, vous avez la possibilité d'échanger avec eux et de faire ce qu'on appelle d'une façon générale du lobbying. Entre lobbying et corruption, des fois, la frontière est fine et visiblement, la frontière aurait été franchie à bien des égards.
Vous l'avez souligné, hein, Vincent Chaudel, on en est encore à l'enquête. Et il y a deux juges d'instruction français donc, qui travaillent sur les conditions d'attribution de ces JO. Et c'était d'ailleurs la question de notre auditeur, Eric. Pourquoi c'est la justice française qui enquête dans cette affaire ?
En fait, c'est la justice française qui enquête parce que la justice française a enclenché une procédure à l'encontre de la Mindiac, donc dans des flux d'argent qui impactent, qui sont liées à la France elle-même. Et donc c'est par effet collatéral finalement qu'on arrive sur les JO de Tokyo et que c'est la France qui mène la danse de cette procédure. La réalité, c'est parce que la question suivante, c'était par rapport au Japon, je crois. Moi, je crois que la vraie question, c'est par rapport à Paris 2024. Parce que cette affaire remet en cause la gouvernance de la Fédération d'athlétisme, mais remet en cause aussi la famille olympique. Mmh. Alors que la France est en situation de vouloir obtenir l'organisation de l'événement majeur de cette famille olympique, c'est-à-dire les JO pour 2024, il va falloir faire très attention à la façon dont la famille olympique va réagir au sens large.
Alors, et pour en revenir au Japon, c'était la dernière question d'Éric, si jamais ces malversations étaient avérées, qu'est-ce que risque le Japon? Et puis surtout, est-ce que les JO de 2020 pourraient atterrir dans une autre ville? C'est Istanbul, hein, je crois bien, qui avait perdu la candidature face à Tokyo.
Alors déjà, plusieurs choses. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un problème de cet ordre-là. Rappelons-nous l'affaire de Salt Lake City avec les JO aux États-Unis. Ce sont des affaires très complexes, très longues, et donc le jugement dont le jugement se fera probablement au-delà de l'organisation des Jeux eux-mêmes. Mmh. Donc je pense qu'il n'y a aucun sujet sur l'organisation des Jeux à Tokyo, d'autant plus que accueillir des Jeux olympiques, c'est très compliqué, ça suppose des investissements très importants en termes d'infrastructures, des sites sportifs, mais pas que, c'est aussi du transport, de l'hébergement.
Enfin, oui, c'est donc très il est trop tard évidemment pour qu'une autre ville puisse se préparer pour 2020. En quelques mots, Vincent Chaudel, s'il y avait des sanctions, ce seraient lesquelles contre le Japon?
Des sanctions, il peut y avoir des sanctions sportives. Là, on a parlé énormément sur l'affaire de dopage avec les fédérations russes, de suspendre la Russie de Jeux Olympiques. Et on voit que ce n'est pas si simple que cela, parce qu'on rentre clairement, et le sport est rentré clairement dans une ère de géopolitique. C'est un levier de la géopolitique. Si on prend le cas de l'athlétisme russe, se mettre à dos la Russie au moment où on a besoin de la Russie dans tout ce qui est Moyen-Orient, c'est pas nécessairement la décision la plus simple à prendre, et on voit bien qu'elle a du mal à se prendre justement.
Ouais, la politique qui se mêle évidemment au sport. Merci Vincent Chaudel, économiste du sport au cabinet Kurt Salmon, d'avoir répondu à notre éditeur Eric qui nous appelait justement du Yokohama au Japon. Une nouvelle question, un nouvel auditeur. On accueille Barry qui nous appelle de Bobigny près de Paris. Bonjour Barry.
Oui, bonjour Madame Marie, et bonjour à tous la radio du monde. D'abord, Madame Marie, vous me permettez d'abord de présenter au nom du Front Uni pour la démocratie à la famille et pour le livre des qui ont perdu leur membre à la prison de M. Alpha Condé.
Barry, on va parler de politique espagnole avec vous. Hein. Vous aviez des questions à ce propos? On va essayer de ne pas trop s'en éloigner.
Voilà, d'abord, le parti Podemos vient de faire alliance avec le parti extrême gauche espagnol pour les législatives du 26 juin prochain. Alors, j'ai quelques questions à vous demander. Mmh. Quelles sont les différentes idéologies entre ces deux partis? Pourquoi cette alliance maintenant avec son rival? Et pourquoi le Podemos n'a pas fait alliance avec le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol?
Oui, on rappelle, hein, Barry, que faute d'avoir pu former un gouvernement issu des dernières législatives qui avaient lieu en décembre, les Espagnols vont devoir revoter le 26 juin. Et Podemos, le parti anti-austérité, donc, a annoncé son alliance avec le parti d'extrême-gauche Izquierda Unida. C'est Mathieu Petithomme qui va nous éclairer sur toutes ces questions. Maître de conférence en sciences politiques, spécialiste de l'Espagne et co-auteur de Contester en Espagne, crise démocratique et mouvements sociaux. C'était aux éditions Démopolis. Bonjour, monsieur Petithomme.
Bonjour.
Alors, on va peut-être commencer par la deuxième question, finalement, de Barry. Pourquoi cette alliance entre des partis que l'on appelle partis rivaux? Est-ce que déjà c'est le cas? Et pourquoi cette alliance maintenant?
Alors, cette alliance intervient dans un contexte post-négociation. Vous savez bien qu'il y a eu des élections lors du 20 décembre dernier qui ont débouché sur un scénario politique assez nouveau en Espagne avec la remise en cause de l'hégémonie traditionnelle des deux grands partis, le Parti Socialiste à gauche et le Parti Conservateur à droite. On a vu émerger deux nouvelles formations, Podemos à gauche, disons à la gauche du Parti Socialiste, et Citoyen, qui est un parti centriste et libéral, disons, de centre-droit, de gauche sur les questions sociales plutôt, mais plutôt de droite sur les questions économiques. Mmh. Alors dans ce scénario, il fallait faire des alliances, Les partis n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et donc aujourd'hui, le nouveau scénario politique, c'est qu'il faut aller vers de nouvelles élections. Or, dans ce cadre, Podemos a, disons, été vu comme un parti un petit peu intransigeant. Il n'a pas réussi à pousser le Parti socialiste à se rallier à ses conditions et donc à faire une alliance avec lui. Et donc aujourd'hui, il essaye de faire une nouvelle alliance, disons, de toutes les forces, à la gauche du Parti socialiste, avec l'objectif très clair de passer devant le Parti socialiste, même si cet objectif est très ambitieux. Peut-être que ce ne sera pas possible, mais en tout cas, Podemos essaye aujourd'hui de créer les conditions pour véritablement entrer en compétition avec le Parti socialiste, parce qu'il faut se rappeler que lors des dernières élections, Podemos a obtenu plus de voix que le Parti socialiste dans l'ensemble de l'Espagne, 5 millions contre 5 200 000 voix, et seul le système électoral a permis au Parti socialiste, système électoral majoritaire, de malgré tout d'avoir plus de députés, même s'il était minoritaire en nombre de voix. Donc c'est une compétition entre ces deux partis,
mais
le Parti socialiste et Podemos d'autre part.
Mathieu Petithomme, le Parti Izquierda Unida n'a fait que 900 000 voix. Alors est-ce que vraiment Podemos plus le Parti Izquierda Unida pourrait vraiment faire plus que lors des législatives de décembre, si je comprends bien, les sondages en tout cas... Donne le parti Izquierda Unida un petit peu dans une... A priori, il aura plus d'électeurs que lors des précédentes législatives. Il est plutôt... il a plutôt une bonne cote en ce moment.
Oui. Alors, évidemment, il n'est pas du rôle des politologues de prédire ce qu'il va se passer. On n'a pas de boule de cristal. C'est pas parce que ces deux partis vont s'allier qu'ils vont faire un meilleur résultat électoral qu'en décembre. Je pense qu'il faut le dire. De fait, il y a déjà un exemple. Lors des élections régionales en Catalogne, en septembre 2015, Podemos s'était allié avec l'ensemble des forces de la gauche, donc la fédération de Izquierda Unida en Catalogne, et malgré tout, ils ont fait un résultat très faible. Alors évidemment, il y avait des conditions différentes. Les élections régionales catalanes se jouent sur l'enjeu de l'indépendance, donc les Catalans avaient tendance à privilégier les partis nationalistes ou indépendantistes. Donc ça n'avait pas marché. Tout ça pour dire que ce n'est pas parce qu'ils vont s'allier que ça a forcément marché. Pour autant, ils essayent de créer les conditions de cela. Et ce qui est clair, c'est que le système électoral en Espagne, il n'est pas majoritaire, il est proportionnel. Mais si vous voulez, il surreprésente les provinces rurales. Donc des partis comme Podemos ou la Gauche Unie, qui sont des partis qui ont leur électorat plutôt dans les villes, eh bien, ils ont du mal à percer. Et Izquierda Unida, comme vous le dites, c'est à peu près 1 million de voix dans l'ensemble de l'Espagne. Donc s'ils vont aux élections tout seuls, ils vont être extrêmement pénalisés par le système électoral.
Pour
donc
revenir
ça
aux
quand
questions
même
de Barry,
de s'allier
oui.
ensemble.
Mathieu Petithomme, pour terminer, pour revenir sur une question de Barry, en quelques mots, les différentes idéologies entre les deux partis. Sachant que Podemos avait jugé le programme d'Izquierda Unida trop radical, ils n'ont pas tout à fait la même ligne politique.
Alors, les différences idéologiques sont en fait assez tenues. C'est un jeu au sein même de la gauche. Si vous regardez bien, le programme sur lequel ils se sont mis d'accord, en fait, la plupart de leurs propositions sont similaires. Alors, pour en donner quelques exemples aux éditeurs, une réforme du système des impôts pour que les rentes les plus aisées payent un peu plus d'impôts, la remise en cause de la réforme du travail votée par le Parti populaire récemment, lutter contre la fraude fiscale, augmenter un petit peu les dépenses sociales dans le cadre de l'État-providence, créer une rente basique de 600 euros, puisque vous savez qu'en Espagne, le salaire minimum atteint à peu près 620 euros, une réforme constitutionnelle pour permettre aux régions comme la Catalogne, le Pays Basque, de trouver une nouvelle place dans l'Espagne moderne, et remettre en place une nouvelle loi électorale, ou par exemple, finalement, mettre fin à ce qu'on appelle en Espagne les portes giratoires, c'est-à-dire le fait que des gens de l'espace politique passent dans les banques.
Mathieu Petithomme, je vais vous couper, parce qu'on a un dernier auditeur qui nous attend au standard. Merci en tout cas pour toutes ces explications, d'avoir répondu aux questions de Barry, notre auditeur de Bobigny, près de Paris, il est 8h24 en temps universel, et notre dernier auditeur pour cette première partie d'appel sur l'actualité. C'est Lamine qui nous appelle de Banjul en Gambie. Bonjour Lamine.
Bonjour Marie et bonjour à tous les auditeurs de la grande radio.
Lamine, vous aviez des questions sur la réforme d'Europol, on vous écoute.
Bien, j'ai appris sur RFI que les États de l'Union européenne réunis à Strasbourg ont décidé de renforcer leur coopération transfrontalière pour lutter contre la criminalité et le terrorisme. À ce sujet, je voudrais savoir qu'est-ce qui a été mis en place pour améliorer les échanges de renseignements entre les États de l'Union et par quels moyens. Est-ce que avec cet accord, l'Union peut-elle obliger les opérateurs des réseaux sociaux à coopérer? Les zéro députés disent qu'on n'est pas en phase de créer un FBI européen. Pourquoi? Et quelle différence y a-t-il entre le FBI et l'Europol?
C'est Quentin Dickinson, notre correspondant à Bruxelles, qui va vous répondre, Lamine. Bonjour Quentin.
Bonjour Marie, bonjour Lamine et bonjour à tous.
Alors le renforcement d'Europol, hein, l'Office européen de coopération policière, quels moyens vont être mis en place pour que Europol soit plus efficace alors?
Eh bien on peut vous répondre très simplement Marie, eh bien tout simplement on va mettre un peu plus d'hommes et un peu plus de moyens financiers et ça s'arrêtera là parce que comme on l'a dit au moment de poser la question, Europol est un organisme de coordination et non pas un organisme qui va sur le terrain pour poursuivre les criminels.
Quel genre d'affaires alors sont traitées par Europol hein ? Quel genre d'informations finalement il regroupe ?
Écoutez, c'est là des problèmes d'image d'Europol. Hein. Peu de choses se savent sur les enquêtes que cette agence a pu mener à bien, dans la mesure où les investigations, comme les interventions, sont conduites par les unités de police des pays membres. Et il est rarissime qu'un fonctionnaire d'Europol soit présent sur le terrain. Et lorsqu'il est possible d'annoncer un succès, eh bien, ce sont évidemment les polices nationales qui tirent la couverture à eux, c'est humain, en négligeant l'apport, souvent déterminant, des officiers de liaison, des traducteurs et des moyens de communication en temps réel qu'apporte Europol. Alors, il y a une question intéressante qui a été posée par Lamine à l'instant, c'est de savoir si le FBI aux États-Unis et Europol, c'est la même chose. Alors, effectivement, on peut répondre à cette question très simplement, c'est non. D'abord, parce que la structure fédérale qui est éprouvée et acceptée aux États-Unis, c'est quelque chose d'admis, qui existe depuis très longtemps. Le fédéralisme en Europe est au mieux à l'état embryonnaire et est rejeté, il faut bien le voir, par une partie non négligeable de la population et par un nombre croissant d'États membres en Europe centrale et orientale. Donc, du coup, l'existence d'un véritable corps supranational qui prendrait le pas sur les forces de l'ordre national est vu avec peu d'enthousiasme par beaucoup dans l'Union européenne. Ensuite, le FBI, vous le savez, existe depuis très très longtemps et fait partie des repères constants de la société nord-américaine. Le FBI est considéré tour à tour aussi simultanément avec admiration, avec crainte. Rien de tout cela pour Europol, dont l'existence même n'est connue que d'un petit nombre. Enfin, les moyens du FBI, on revient là-dessus, et ceux à disposition d'Europol ne souffrent pas la comparaison. La comparaison, Europol, c'est quelques centaines de policiers détachés de leur corps d'origine et installés avec leurs ordinateurs dans des bureaux anonymes à La Haye, aux Pays-Bas. Ici, au FBI, ce sont des dizaines de milliers de collaborateurs, des avions, des hélicoptères, des systèmes sophistiqués de surveillance électronique. Et l'on pourrait ajouter une dernière différence de taille. Le FBI agit dans un cadre légal connu de tous, alors qu'Europol ne fait que coordonner dans un cadre juridique méconnu de la plupart des policiers en Europe.
Alors Lamine, pour conclure, Quentin, en quelques secondes, Lamine évoquait les réseaux sociaux. Maintenant, Europol peut demander la fermeture de page, hein, c'est ça?
Oui,
Ah, un problème de connexion avec Bruxelles, Quentin Dickinson. Et pour répondre finalement à sa place, effectivement, hein, Europol donc peut demander maintenant la fermeture de certaines pages Facebook qui, par exemple, relaient le message de groupes djihadistes. Appel sur l'actualité va revenir juste après le journal pour notre débat aujourd'hui sur la pollution de l'air en ville. Dites-nous ce que vous constatez dans votre ville. Merci d'avoir choisi RFI et Appel sur l'actualité.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.
Autour de la question.